RCF.
All You Need Is Love, chantaient les Beatles dans une chanson fameuse. L'amour, tout le monde en parle, tout le monde le cherche, mais que peut-on en dire puisque ce mot recouvre tant et tant de malentendus ? Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus apporte sa propre note dans le concert des définitions. Pour commenter cet évangile, je reçois cette semaine la bibliste et écrivain Anne Soupa. Nous écoutons tout d'abord la parole dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 9 à 17.
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
Anne Soupa, bonjour.
Bonjour.
Resituons avec vous le contexte de la parole que nous venons d'entendre. Le moment est très important, décisif. Jésus est là avant sa passion, juste avant sa passion.
Oui, c'est un ensemble de discours qu'on a appelé les discours de l'adieu. C'est un testament de Jésus. Il dit à ses disciples ce qu'il y a de plus important, ce qui doit leur servir de viatique pour la suite de leur existence. Et cet ensemble de discours suit le geste décisif de Jésus du chapitre 13, qui est le lavement des pieds, où il enjoint à ses disciples d'être au service les uns des autres.
Reprenons avec vous verset après verset cet évangile du dimanche. C'est donc Jésus qui parle. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Alors le verbe « demeurer », il est très présent dans les versets précédents. Et ici, le mot « amour » fait son apparition. Quel sens a-t-il ici, Anne Soupa ?
Moi, je suis surtout sensible au premier mot de ce verset, c'est le mot « comme ». On est dans une chaîne « comme », le mot va revenir dans toute la séquence. Donc, l'amour, ça n'est pas quelque chose d'isolé, pour répondre à votre question. C'est quelque chose qui est pris dans une chaîne. Je donne, je reçois, je donne. Continuellement, nous sommes pris là-dedans. Donc la première définition de l'amour que je peux vous proposer, c'est d'être pris dans cette relation qui ne cesse pas. Et le verset nous indique que la source, c'est le Père. Donc il faut être relié à la source pour comprendre ce que c'est que cet amour.
Il est question de demeurer dans l'amour. Alors, serait-ce que cet amour est déjà là, déjà donné, et qu'il s'agit de l'accueillir, presque de s'y loger ?
Alors, je trouve effectivement le verbe très intéressant, parce que au début du verset, on est dans la circulation que vous évoquiez à l'instant, et puis tout d'un coup, on nous dit demeurer. Il faut s'arrêter et rester dans quelque chose qui nous enveloppe et dans lequel on se complaît au début, il faut demeurer dans cet amour. parce que l'amour, ça se déguste aussi, ça se vit de manière approfondie. Il faut que tout le corps, tout l'esprit s'en imprègne de cet amour. Donc je suis comme vous, sensible à ce verbe « demeurer », qui est presque en contraste avec ce qui précède, mais qui lui donne toute sa force. Parce que l'amour ne passe pas en nous de manière superficielle. Mais il y a une imprégnation de cet amour que Jésus nous propose de vivre.
Anne Soupa, Jésus va préciser dans les propos qui suivent en quoi consiste l'amour, puisqu'il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Alors il est question de garder les commandements. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ?
Alors qu'est-ce que c'est que les commandements du Père que Jésus a mis en œuvre ? Ça se voit dans toute sa vie. C'est tout ce qu'il a fait. C'est son travail d'enseignement, de guérison, de réintégration des exclus, d'écoute des pauvres. C'est tout ça les commandements du Père. Jésus a pris à la fois la loi mosaïque très au sérieux et il l'a prodigieusement accompli en assumant une vie tournée vers les autres complètement. Donc c'est ça garder les commandements du Père.
Anne Soupa, nous commentons avec vous l'évangile de ce dimanche. Je rappelle que c'est chez Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. Jésus est en train de parler à ses disciples avant sa passion. Et alors il les invite à garder ses commandements et puis il poursuit « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Qu'est-ce que vous diriez sur ce passage? Il est question de la joie d'aimer. La joie, c'est aimer?
Aimer donne de la joie, oui. Moi, j'ai encore entendu un petit enfant la semaine dernière qui faisait ce qu'on appelle traditionnellement sa béa et qui disait « Qu'est-ce que ça fait du bien de faire du bien ?»
Il est question de joie parfaite. Pourquoi ce mot « parfait » ?
Pourquoi ce mot « parfait » ? Parce qu'il y a une sorte d'acné dans la joie de faire le bien. C'est l'extase, c'est la sortie de soi. C'est l'aboutissement du mysticisme, on peut le dire comme ça. Le mysticisme chrétien se transforme en éthique et la joie qui en résulte est une joie parfaite parce que la croissance du bien est une source de jouissance. Elle apporte la réconciliation avant d'apporter la paix. Elle apporte la bonne conscience au sens fort du mot, c'est-à-dire la conscience du bien qui a été accompli. Et c'est un instrument qui permet la vie sociale.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Anne Soupa, nous continuons à commenter avec vous l'évangile de ce dimanche chez Jean. Jésus est donc en train d'inviter ses disciples à aimer comme lui aime. Et Jean poursuit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Donc là, il y a un élément supplémentaire qui surgit avec cette amitié. Comment comprendre « ami », ce mot « ami » ?
Alors, avant de comprendre « amitié », il faut comprendre que le plus grand amour est de donner sa vie. Et là, c'est quelque chose de prodigieusement exigeant, parce que cet amour, il va jusqu'au don de la vie. Et je pense que nous pouvons comprendre cette parole de manière très simple. Il y a une amplitude dans ce donner sa vie. On peut donner son temps tous les jours, hein, on peut donner son corps. Quand une maman attend un bébé, elle donne son corps. On peut donner sa patience quand on est un enseignant, par exemple. On peut donner sa force de travail. Bon, et on donne sa vie en mourant pour quelqu'un. Ça, c'est le don qui va jusqu'au bout. Et c'est ce qu'a rappelé Jean au moment du lavement des pieds, vous vous souvenez? Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. C'est une anticipation de la passion qui arrive. Bon. Et moi, je pense que ce don inconditionnel, il fonde notre capacité à aimer. Quand j'observe les enfants que j'ai pu voir dans ma vie, tous les enfants du monde testent l'amour de leur entourage, que ce soit les parents ou d'autres éducateurs, ils essaient, ils ont besoin d'être certains de l'amour. L'amour ne supporte pas la contrefaçon. Donc pour être certain de l'amour, il y a toujours un test du jusqu'au bout. Est-ce que tu m'aimes pour de vrai ? Et Jésus qui donne sa vie, c'est le test ultime. Il a donné pour de vrai.
Donc voilà. C'est un peu le « qui perd sa vie la trouve » que l'on trouve dans les synoptiques à plusieurs reprises, une expression paradoxale qui fait de la perte une sorte de gain.
Il faut savoir pour qui est la perte et pour qui est le gain. La perte, elle est pour celui qui donne, apparemment, le gain est pour celui qui reçoit. Mais Jésus nous invite aussi à penser que celui qui donne et qui est soi-disant dans la perte, il est aussi dans le gain. Parce que sa joie de voir l'autre vivre est une joie parfaite et que la disparition de sa propre vie est certes une souffrance, mais une souffrance acceptée pour que l'autre vive. Bon. On est dans quelque chose de radical, de très fort, et que nous ne sommes pas capables de faire, il faut bien le dire, sauf quelques exceptions que nous connaissons, comme le Père Kolb, par exemple, ou d'autres. Mais Jésus nous dit bien qu'il faut pouvoir aller jusque-là.
Au sujet de l'amitié, puisque si nous œuvrons de cette manière-là, nous devenons amis, qu'est-ce que vous diriez ?
Eh bien, je dis que cette amitié est une relation très forte. L'amitié est une amitié d'amour, d'agapé, c'est-à-dire que ça n'est pas une parole en l'air, c'est une parole qui va très loin, jusqu'au don total de la vie. Jésus a toujours énormément valorisé l'amitié comme un fondement de la vie sociale, et là, on le voit, et la parole de Jésus prouve que l'amitié est quelque chose de très fort.
Et en même temps, y a un côté offre sous condition dans cette phrase qui peut être entendue. Si vous obéissez, on sera amis. Faut faire attention au contresens là.
Bien sûr, mais c'est parce que le fait d'obéir n'est pas une obligation au sens de la condition. C'est une manière de pouvoir rentrer dans l'amour. L'amour, c'est comme ça. L'amour, c'est comme ça. Ça demande de pouvoir donner. Alors, le mot « ce que je vous commande » paraît très rébarbatif, il paraît qu'il peut faire fi de notre liberté, mais c'est la condition de l'amour que Jésus explique. Je crois qu'il faut le prendre dans un sens constructif et non pas dans le sens d'une obligation liberticide, comme on le dit aujourd'hui.
Anne-Soupa, Jésus dit à ses disciples qu'il ne les appelle plus serviteurs, mais qu'il les appelle amis, et il dit « car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître ».
Jésus a fait connaître tout ce qu'il a entendu du Père. Donc, nous pouvons avoir un désir de connaître le Père, mais nous devons aussi savoir que tout ce que nous avions besoin de savoir, Jésus nous l'a fait savoir. Donc, tout nous est donné déjà. Ça, c'est une manière de circonscrire nos désirs un peu d'évasion, d'absolu, d'un ailleurs qui est impossible à réaliser. Jésus nous dit « Non, tout est déjà dit. Je vous ai tout fait connaître. Regardez ma vie, regardez ce que j'ai fait. » Et là, c'est la transcription de tout ce que j'ai entendu du Père. Alors qu'est-ce que c'est ? On en a parlé il y a 5 minutes, mais je le redis, c'est la bienveillance, c'est le refus de l'exclusion, c'est le désir de la santé, c'est toute tâche humaine que nos sociétés essayent de mettre en œuvre, pas toujours bien, c'est évident, mais elles sont animées de ce désir. Par conséquent, nous pouvons rentrer dans ce cycle, cette circulation d'amour. La société contribue aussi à réaliser tout ce que Jésus a pratiqué dans sa vie. Mais il y a la conscience du Père, la conscience de l'amour reçu que seuls, je pense, les chrétiens portent.
À un moment donné, Anne-Soupa, Jésus dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Comment vous l'entendez ?
Alors, je peux l'entendre de manière un peu négative, où je peux exprimer une sorte d'agacement de voir que on a choisi, on m'a choisi, on m'a établi, on a décidé pour moi, on a pris ma liberté. Bon, Je pense qu'on aurait tort parce que Jésus, le premier, dit « Ma vie, nul ne me la prend, c'est moi qui la donne ». Donc la liberté, Jésus a bien conscience qu'on garde notre liberté puisque lui-même l'a gardée. J'écarterais volontiers cette lecture qui paraît frustrante, mais je souligne la précédence du Fils. L'histoire commence pas avec moi, mais avec celui qui m'a aimé avant moi. Et nos vies sont comme ça. Nos existences ne commencent pas avec notre naissance. Nos existences commencent avec le désir de ceux qui nous ont aimés avant que nous naissions. Et Jésus, effectivement, nous établit dans cette antécédence. C'est une sorte de bonheur de se savoir précédé, de se savoir choisi. En tout cas, moi, je le reçois comme un bonheur.
Anne-Soupa, Jésus dit à la fin du verset 16 « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera ». Qu'est-ce que cela veut dire « demander au nom de Jésus » ?
C'est-à-dire demander de la manière dont Jésus a fait. C'est-à-dire que quand on regarde l'attitude de Jésus envers les gens qu'il rencontre, Jésus n'est pas un redresseur de tort. Jésus remet de la vie. Il remet du dynamisme dans une existence et il enlève la faute quand elle paralyse la vie. Donc demander au nom de Jésus, c'est demander comme ça. C'est rentrer dans cette bienveillance du Père.
Anne-Soupa, lisons avec vous la finale de notre évangile. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Pourquoi Jésus répète-t-il ce qu'il vient de dire un peu plus haut ?
Exactement, c'est une reprise du verset 12. Alors là, on est dans le système johannique dont on a déjà parlé, c'est-à-dire qu'on croit que ça tourne en rond, mais en fait, ça ne tourne pas en rond. On avance à chaque fois un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné dans ces quatre versets ? On a gagné que Jésus a donné sa vie, d'abord, et on a gagné la certitude d'être des amis et d'avoir été précédé par Jésus. Donc, si vous voulez, l'environnement dans lequel on se trouve s'élargit. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Donc, j'étais là. Avant vous, j'étais là et j'ai aimé. Vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes des amis. Le cercle s'élargit, là aussi. Et tout ce que le Père a dit, eh bien, moi, je vous l'ai fait connaître. Donc, vous savez tout ce que le Père peut attendre de vous. Donc, vous voyez que le cercle à l'intérieur duquel cet amour se déploie est plus large au verset 17 qu'au verset 12. Donc il y a une amplification dans ce dernier groupe de versets par rapport au verset 12. Donc une sorte de dilatation, d'ouverture, et en même temps, la consigne est d'une clarté sans bavure, sans appel, sans échappatoire. Aimez-vous les uns les autres, ça renforce la consigne. Alors, le début du verset paraît extrêmement exigeant et autoritaire. Voici ce que je vous commande. Mais le commandement pour les Juifs qui obéissent à la loi, les commandements, c'est essentiel de savoir qu'est-ce qui est commandé, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Le terme nous perturbe aujourd'hui, mais allons au-delà. C'est la recommandation, appelons ça la recommandation ultime de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas d'autre manière de vivre que de s'aimer. Et je me mets à la place soit d'une personne qui va mourir, soit d'une personne qui entend quelqu'un qui dit ses dernières volontés. C'est d'une force incroyable. Il y a la puissance de la dernière foi qui s'impose et qui rend la parole essentielle et à laquelle on ne peut pas se dérober. Ne vous dérobez pas à l'amour si vous voulez vivre. Thank you.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Anne Soupa, nous avons pris le temps de regarder verset après verset cet évangile. En quoi cette parole, elle est une bonne nouvelle pour nous, aujourd'hui dans la situation actuelle ?
Eh bien, c'est une bonne nouvelle parce que nous devons avoir le souci les uns des autres. Nos corps sont affectés par la pandémie, nos esprits aussi. Nous sommes perturbés par les restrictions de liberté que nous subissons. Et en même temps, c'est pour notre salut corporel et le salut de nos frères et de nos sœurs. Donc oui, c'est une bonne nouvelle de nous aimer les uns les autres en ce moment. C'est encore plus important aujourd'hui que dans des situations de bien-être social naturel, disons.
En quoi le fait d'être ami de Dieu change notre perception de ce qu'est être croyant ?
Eh bien, parce que nous rentrons dans une chaîne qui est une chaîne, qui est une véritable société. C'est l'importance du comme dont je vous parlais tout à l'heure. Le croyant est pris dans une relation permanente et cette relation, elle n'est bénéfique que si il se tourne vers les non-croyants, vers l'au-delà de ce groupe de croyants. Sinon, ça n'a pas de sens. Et la consigne de Jésus, c'est de s'aimer sans limitation, de nous aimer les autres. Rappelez-vous dans Matthieu, la parole de Jésus, il est venu pour la multitude, c'est-à-dire pour tout le monde.
Donc ça veut dire que l'amitié de Dieu, elle concerne tous les hommes, quels qu'ils soient.
Oui, oui, l'amitié de Dieu est un don sans condition, universel, qui ne fait pas exception de personne. Mais c'est aux croyants de le mettre en œuvre, parce que eux sont reliés au Fils, et le Fils est relié au Père. Eh bien, c'est de cette chaîne d'amour que les croyants doivent user pour diffuser l'amour au-delà de leur cercle trop fermé. L'amour est pour tout le monde.
Mais quand on dit amour aujourd'hui, comme je le disais en introduction, ça recouvre énormément de réalités. À regarder de plus près cet évangile, donner sa vie, la perdre, c'est une parole scandaleuse.
Bien sûr, c'est une parole d'une radicalité. C'est là qu'on touche la radicalité de l'évangile. Jésus a été jusqu'à donner sa vie et nous pouvons, nous, être amenés à la donner. Mais vous savez, quand on la donne petitement, on la donne pleinement quand même. Moi, j'ai le souvenir, un souvenir cauchemardesque de mes nuits blanches de jeune maman quand il fallait se lever. C'était un cauchemar. Et je crois que j'ai fait beaucoup pour mes enfants en acceptant de me lever la nuit. Et tous les parents font ça. Et d'autres personnes donnent de leur vie de manière certainement modeste. Mais ils donnent pleinement quand ils donnent. Donc le scandale, nous le vivons. Il nous traverse, il traverse nos corps. Oui, c'est scandaleux d'avoir à se lever la nuit pour aller s'occuper d'un bébé. C'est un scandale. Bon, mais nous le faisons. Nous le faisons parce que si nous ne donnons pas, il n'y a pas de vie possible. Si nous ne donnons pas, c'est la guerre dans les sociétés. Nous ne pouvons pas vivre sans le don. Et le don, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que de donner sa vie ? Allons jusqu'au terme du don, c'est ça.
Puisque vous parlez de don, comment entendre aujourd'hui tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera ? Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu ?
Il faut demander à Dieu de devenir capable d'aimer, de nous aider à mieux aimer, parce que nous n'aimons pas toujours bien. Parfois, nous avons un amour qui étouffe, parfois, nous avons un amour qui est trop distant, nous ne voyons pas bien les problèmes de nos frères et de nos sœurs, nous nous arrangeons très facilement, nous construisons des petites solutions un peu bricolées. Et il faut, je crois, demander au Père de nous aider à aimer et de nous aider à aimer comme il a aimé son Fils. Cette parole nous tourne vers un mystère parce que comment le Père a-t-il aimé le Fils ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à ça. Je sais qu'il y a une zone de mystère, un amour qui a circulé entre le Père et le Fils dont je ne peux pas. Je ne peux pas avoir la connaissance complète. Je dois le supposer, et je ne le suppose et je ne le crois vrai que parce que je vois le Fils, je vois ce que le Fils a fait. Et quand je demande au Père, je me tourne vers ce mystère de l'amour entre le Père et le Fils que je ne connais pas, mais que je dois imaginer pleinement, je ne sais pas comment vous dire, il n'y a plus de mots pour dire ça. C'est un amour total, un amour de connaturalité, un amour de partage complet. Je ne peux rien en dire de plus, mais c'est ma référence.
Un dernier point, Anne-Tsupa, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans l'Église, ça devrait ressembler à quoi normalement ?
Ça devrait ressembler à une bienveillance inépuisable, à un refus de l'exclusion, à une écoute de la parole de l'autre. Voilà déjà trois sujets majeurs, la bienveillance, l'écoute de la parole de l'autre et le refus de l'exclusion. Le plus important pour moi étant aujourd'hui le refus de l'exclusion. Si nous nous aimons les uns les autres, nous n'avons pas le droit de refuser à l'un ou à l'autre sa place plénière dans l'Église. Je pense que le refus des sacrements à des personnes divorcées, remariées et à des personnes homosexuelles est un contre-témoignage de cette parole. Voilà, je sais que tout le monde ne pensera pas les choses de cette manière, mais Béatrice, votre question est directe et j'y réponds de manière directe.
Merci à vous, Anne-Tsupa. L'évangile que nous avons lu est à retrouver chez Jean, au chapitre 15, versets 9 à 17. Je signale que votre dernier livre est sorti chez Albin Michel et il s'intitule « Pour l'amour de Dieu, pourquoi j'ai osé bousculer mon Église ». Merci à vous et merci à Antoine Picot à la technique.
Merci.